en outre, le fait qu'il va y avoir de plus en plus de gens malades et autour de nous, ça implique qu'on a aussi des devoirs vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire des devoirs de compréhension et de solidarité par rapport à ces gens, et de pas faire des ghettos de gens malades, de gens atteints du sida. Et je crois que c'est par l'information que ça se fera, et par une discussion plus intense à propos du sida, parce que la mauvaise information, elle conduit souvent à des préjugés, des fausses idées ou des idées reçues. Et je crois que dans le cadre du sida, c'est assez généralisé. Qu'à voir ce qui se passe maintenant aux États-Unis avec, par exemple, les groupes d'homosexuels qui non seulement pour les malades homosexuels qui non seulement sont malades, en plus sont homosexuels, c'est-à-dire souffrent par deux fois
d'une marginalité.
Voilà,
enfin, ils sont mis en marge.
Exactement.
Alors, je crois que justement, c'est un moment pour parler plus précisément avec vous, Brigitte Studer, qui est coordinatrice au groupe SIDA Genève, de parler aussi de qu'est-ce qui se passe pour les personnes séropositives. Parce que c'est aussi une chose d'en parler, ça n'arrive qu'aux autres, bien entendu. Et qu'est-ce qu'on peut ressentir, quels besoins on a et qu'est-ce qu'on attend finalement de la société dans un cas pareil. Peut-être qu'avant d'aborder le problème plus précisément, vous pourriez nous rappeler le travail de SIDA Genève.
Je travaille donc pour le groupe SIDA Genève, qui est l'antenne régionale à Genève de l'aide suisse contre le sida. Nos objectifs sont d'une part de travailler par rapport à la prévention, je ne vais pas y revenir, mais ça en fait partie, de lutter contre la discrimination des personnes directement concernées aussi. Et de l'autre côté, de travailler par rapport au soutien des personnes directement concernées ou bien des personnes séropositives, des malades ou leur entourage. Dans le groupe SIDA, ce sont surtout des volontaires qui se sont engagés par rapport à ces activités. Moi, je coordonne cette activité. Et nous avons développé une permanence téléphonique, une soirée d'accueil le mercredi soir au groupe SIDA à la rue de l'Arquebuse, et un groupe, bientôt un deuxième, d'accompagnants, de personnes qui ont choisi d'accompagner une personne malade par rapport à sa situation. Ceci, bien sûr, par rapport à l'isolement que souvent, trop souvent, vit une personne malade. Par ailleurs, nous avons pu créer un groupe de personnes séropositives et malades qui fait un travail ensemble, une manière de sortir de l'enfermement dans cette maladie et de l'isolement. Ce que je voudrais dire par rapport à ce que ça signifie pour une personne séropositive, bien sûr, c'est différent d'une histoire à l'autre. Je pense que ça a beaucoup d'effets au niveau déjà de la vie sociale tout court. Ce que ça signifie pour la personne de vivre avec ce diagnostic, ce test, c'est dans le temps aussi. C'est une chose, la crise du départ, de le fait d'apprendre d'être séropositive, qui souvent est extrêmement difficile, qui peut être très brutal aussi selon comment a été annoncé le résultat du test, où ont été faits beaucoup de progrès, il faut l'admettre. Mais aussi, ça peut être difficile d'intégrer vraiment et de vivre dans le temps. Par exemple, une personne séropositive qui a une grippe, moi aussi qui suis à côté d'elle, je me dis « ouf, qu'est-ce que c'est ?» Ou l'autre jour, une personne avait une pneumonie, là, je me disais « voilà, ça y est, il est malade ». Et de fait, c'était une pneumonie, comme tout le monde peut avoir une pneumonie, c'était pas du tout ça. Mais le fait de toujours de ne pas savoir ce qui va se passer, c'est extrêmement difficile à vivre, déjà dans le rapport à soi-même, d'avoir des projets, d'oser espérer par rapport à ce qui peut se passer. Aussi, par rapport à ce qui peut se vivre dans une relation de couple, justement, c'est difficile à intégrer. Et souvent, ce que j'ai pu voir, c'est que pendant un certain temps, en tout cas, ça fait une rupture. La sexualité, d'une certaine manière, n'est plus vraiment possible. Ça peut être dépassé, effectivement, mais il peut y avoir un moment où effectivement, d'intégrer le préservatif, c'est difficile, où ça paraît difficile que l'autre puisse donner quelque chose qui peut être mortel, ou bien qu'on puisse le donner à l'autre, même s'il y a cette possibilité-là de la prévention. Ou aussi, à l'intérieur d'une famille, eh ben, c'est extrêmement difficile d'admettre. Les homosexuels ont pu me dire, mais c'est impossible que je dise ça à mes parents, jamais ils l'admettraient. J'ai aussi vu une mère qui m'a dit, je sais que mon fils est homosexuel, j'ai peur, il va pas bien. Peut-être bien qu'il a le sida, j'aimerais pouvoir l'aider, mais c'est impossible, j'en parle jamais, jamais, jamais. Mais comment je pourrais savoir? Je veux dire, dans une famille où déjà l'homosexualité a pu être difficile, ou la toxicomanie aussi, c'est vrai que ça devient aussi parler de quelque chose dont on n'a jamais parlé. Et pourtant, je trouve qu'ici, à Genève, en tout cas, d'après ce que j'ai pu voir, il peut y avoir des réactions vraiment de rejet, mais ce n'est pas toujours le cas. Je veux dire, il y a des familles qui sont d'accord d'être là, d'être présents, même si après, à l'extérieur, ils ne diront jamais. Je veux dire, ils parleront d'autres choses. Pour des parents aussi, c'est difficile de dire « mon fils a le sida » ou « ma fille est malade du sida ». On n'ose pas dire ça dans le voisinage ou dans l'entourage. Donc à tous ces niveaux, uniquement déjà des relations sociales, c'est extrêmement difficile à vivre. Et puis après, il y a aussi toutes les conséquences, plus au niveau, plus au niveau des structures sociales comme l'assurance maladie, le deuxième pilier, l'emploi, où nous, ce qu'on peut seulement souhaiter, c'est que les personnes qui décident de faire un test fassent un test anonyme, parce que c'est vraiment extrêmement important qu'il n'y ait pas de traces, dans la mesure du possible, d'un test éventuellement positif.
Mais de là réside l'ambiguïté, puisque d'une part on se sent extrêmement isolé, extrêmement rejeté aussi, et que en pouvant dialoguer, en pouvant quand même se sentir intégré dans sa famille et avec ses amis, ça permet peut-être de mieux surmonter ce choc qui est un choc inimaginable tant qu'on l'a pas vécu. Et puis en même temps, il faut pas le dire, puisqu'il y a des risques au niveau social. Alors,
ça crée effectivement une situation très conflictuelle, souvent. Je pense que, d'abord, c'est très important de bien réfléchir, est-ce qu'on est vraiment prêt à faire le test? Je veux dire, une chose, c'est de faire pour voir qu'il est négatif. Autre chose, c'est de pouvoir accepter le fait de vivre avec un test séropositif. Ça peut être un choix tout à fait bien, je veux dire, et important de le faire. Mais je pense qu'il faut bien y réfléchir avant et savoir à quelles questions il doit répondre. Il n'est pas très utile par rapport à la prévention, parce que de toute façon, il faut la faire. On a vu avant qu'on est deux. Donc, ce n'est que dans une relation de couple vraiment stable et fidèle à long terme qu'on peut faire le choix de ne plus utiliser de préservatif, par exemple. Mais autre, ou par rapport à une grossesse aussi, ça peut être important de faire un test, bien sûr. Donc là, ce sont des situations où un test amène une réponse, donc où ça peut valoir la peine de le faire.
Tu veux dire quelque chose? Oui, moi je voulais vous demander quelque chose, c'est que justement par rapport à ce problème du sida et de l'avoir contracté et d'être, d'une certaine manière, vous dites quand même faire partie d'une caste spéciale et qu'on ne peut pas répandre ça dans le voisinage. Alors qu'est-ce qu'on peut espérer pour le futur? Est-ce qu'on pourra changer les... Je suppose que c'est impossible de changer des mentalités ou changer une structure sociale, mais alors que peut espérer ce genre de personne?
Je pense qu'il faut quand même distinguer justement au niveau des relations qu'une personne a avec ses amis, avec sa famille. Je pense que là, c'est bien de voir avec qui le partager. Je veux dire, il y a des personnes où c'est possible. Peut-être qu'on ne peut pas le raconter n'importe comment dans un bistrot, ça c'est vrai. Mais peut-être que telle personne est de confiance et c'est possible qu'elle soit aussi consciente du fait qu'on ne peut pas le raconter n'importe comment et n'importe où. Donc je pense que là aussi, ça doit être gérable. Et qu'il y a quand même plus de personnes qui sont prêtes à avoir un ami qui est séropositif ou une copine ou un copain. Et qu'il y a aussi des personnes qui ont fait le choix de le dire. Et assumant pour eux-mêmes ce qui se passe, les personnes autour peuvent aussi le vivre d'une certaine manière. Moi, je ne peux pas dire qu'il faut le faire, mais j'ai vu des personnes qui arrivaient à le faire et ça se passe bien. Pour moi, alors, c'est autre chose au niveau des assurances, par exemple, et par rapport à l'emploi. Je pense que là, il faut se battre pour qu'il n'y ait pas de discrimination. Et que à ce niveau-là, c'est une lutte au niveau politique, parce que l'Office fédéral de la santé publique, par exemple, donne des indications et des souhaits par rapport à la non-discrimination des personnes séropositives et malades, mais il n'y a aucun pouvoir d'imposer. Par exemple, un employeur, il peut être libre de décider, de demander aux personnes qui l'engagent de faire un test. Les personnes peuvent refuser, mais ne seraient ainsi pas engagées. On ne peut pas imposer à un employeur qu'il ne fasse pas de test. Par contre, ça peut être tellement mal vu qu'il ne le ferait pas. C'est ça qui s'est passé, en fait, à Neuchâtel, où une assurance voulait proposer le test à tout leur personnel. Et avec des pressions politiques, en fait, ils sont revenus en arrière. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses encore au niveau des assurances qui sont en train de se décider, en fait.
Parce qu'il y avait, par exemple, le cas de la Gewerbekrankenkasse, enfin pour la citer elle, qui en fait qui prétend sanctionner les personnes atteintes du sida si celles-ci ne peuvent pas fournir la preuve que la maladie n'est pas de leur faute. Alors donc c'est quand même c'est extrêmement gros et grossier hein, ce genre de choses. Aussi la mutuelle suisse du Grutli, il y avait aussi elle prétend aussi exclure les séropositifs appartenant à des groupes à risque de toute couverture complémentaire et elle estime une réserve HIV positive légitime dans le cadre de l'assurance de base. Donc c'est vrai que c'est pas le cas de toutes les assurances parce qu'il y a même certaines assurances dont une mais malheureusement de elle je me souviens pas le nom qui elle a dit ouvertement qu'elle ne mettrait aucune restriction par rapport aux personnes séropositives. Mais c'est vrai que c'est loin d'être le cas de toutes les assurances, qu'il faut absolument se battre par rapport aux assurances, par rapport aux employeurs, dès qu'il y a des restrictions, une mise à part des personnes séropositives. Mais comme il y a encore au niveau des lois, c'est pas encore assez défini, c'est vrai que ce test doit être absolument anonyme. À propos du test, justement lié au sida, donc on parle de tests anonymes, de tests donc pas de texte anonyme ou, comme on dit, nominal. Alors, comment faire la différence? Comment procéder pour faire un test anonyme?
Oui. C'est donc possible à Genève, à l'hôpital cantonal, de faire un test anonyme, c'est-à-dire où on ne donne pas le nom, où ça se passe avec un chiffre, il y a juste l'année de naissance et le sexe. Et de cette manière-là, il n'y a pas de traces au niveau administratif. Il faut payer ce test, il coûte 30 francs. Bien sûr, à part ça, on peut aller chez un médecin ou dans un laboratoire et demander un test qui, après, passe par la caisse maladie. Mais vu que les problèmes sont justement avec les assurances, de fait, c'est bien d'avoir ces doubles sécurités. Donc, c'est la première situation où le secret médical ne suffit pas. Où on a, et l'Office fédéral était d'accord d'accepter cette possibilité, on a une deuxième sécurité. Parce que le secret médical uniquement ne suffit pas. Bien sûr, ça devient différent pour une personne qui est malade, qui a des symptômes. Donc à ce moment-là, bien sûr, elle va être suivie médicalement et elle aura un dossier médical et le traitement sera pris en charge par l'assurance. À ce moment-là, c'est différent. De fait aussi, ces discriminations s'adressent ou peuvent être plus importantes justement pour une personne seulement séropositive.
Donc là, c'est le problème du test. Quand on parle du sida, si on veut parler plus particulièrement des femmes, là aussi, il y a des questions qui sont plus spécifiques, parce qu'il y a des questions liées à la grossesse, déjà, donc. Est-ce que systématiquement, lorsqu'on fait un test de grossesse, on pratique le test du sida?
Quand même pas systématiquement. De fait, maintenant, l'indication, c'est qu'il faut avoir le consentement éclairé de la personne qui fait le test. Ça signifie qu'il faut qu'il y ait eu une discussion, une explication de ce que fait ce test. Maintenant, à la polyclinique de gynécologie, oui, ils proposent le test HIV à toutes les femmes en début de grossesse, comme sont faits d'autres examens. Et ils le proposent aussi à une femme qui déclare désirer une grossesse. Je ne peux pas dire comment ça se pratique chez tous les gynécologues. Là-dessus, je ne sais pas. Les abus dont on a entendu parler de tests pratiqués sur des personnes à leur insu semblent quand même diminuer plutôt. En tout cas, à Genève, ce n'est pas forcément le cas pour le reste de la Suisse.
Alors toujours dans ce groupe SIDA, je crois que tu accompagnes des personnes séropositives. Et qu'est-ce que vous leur proposez?
Ce sont donc des volontaires qui accompagnent des personnes malades ou séropositives aussi, oui. Il y a donc l'accompagnement, ce sont deux personnes volontaires qui sont d'accord de vivre quelque chose avec cette personne malade. Et c'est très différent d'une situation à l'autre. Il y a telle personne malade qui travaille encore, où le problème c'est plutôt l'isolement, le fait de se dire « bon d'accord, alors je suis malade dans ce moment, à ce moment-là ». Ça veut dire qu'il y a la mort, il n'y a plus rien possible de vivre. Et l'étonnement que de fait, elle vit toujours. Je veux dire, ce n'est pas immédiat comme ça. De fait, aujourd'hui, les malades du sida vivent assez longtemps. Ça a changé. Et pour d'autres, ça peut être des visites à domicile ou à l'hôpital, une à deux fois par semaine, donc, où c'est vraiment un accompagnement. Par ailleurs, on a...
Ouais. Non, mais je me disais que peut-être aussi j'étais très vague, parce que là, on parle indifféremment de personnes malades, de personnes séropositives et tout, et je crois que c'est très différent. Peut-être qu'il faudrait peut-être qu'on refasse la distinction de manière plus claire, de pas mélanger tout le monde. C'est-à-dire qu'une personne séropositive n'est pas une personne malade.
Ah, bien sûr, ouais.
Non, mais c'est moi qui ai créé l'ambiguïté.
Ouais, tout à fait, c'est important, bien sûr. Une personne séropositive peut être parfaitement en bonne santé et le rester jusqu'à, je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas savoir ni quel pourcentage de personnes vont effectivement
développer
malades.
La maladie.
Ouais. Et on n'a que des estimations sur le temps qu'on a, depuis qu'on a découvert la maladie.
Toujours est-il que, d'après les témoignages qu'on a pu lire ou entendre, le fait de se savoir séropositif est un choc quasiment aussi important que si on nous disait tout de suite qu'on a le sida.
Oui, il y a même des personnes qui ont pu me dire que le choc avait été plus grand que au moment où on leur a dit « maintenant, vous êtes malade », que c'est quelque chose de différent. C'est-à-dire, mais je ne voudrais pas le généraliser, parce que j'ai l'impression que chaque malade avec qui j'ai pu parler disait autre chose ou vivait autre chose, cette histoire-là. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ont pu dire que une fois que la maladie, que c'était clair qu'ils étaient malades, il y avait un type d'angoisse qui n'était plus là, la peur que ça arrive, je veux dire. Et à ce moment-là, ils vivent ce qu'ils ont à vivre, mais qui est peut-être trop souvent, on voit que la toute fin. Pour le moment, ils peuvent, il y a des traitements quand même qui ne guérissent pas, mais qui font qu'une personne peut travailler, peut vivre assez bien, et peut-être plus fatiguée, mais et ils se posent toute la question de quelle vie, même à l'idée de la mort.
En fait, si je pose toutes ces questions, c'est surtout puisque, de par toute la discussion, que ce soit au niveau de la prévention, que ce soit lorsque une personne est déjà soit séropositive ou ensuite a développé la maladie, c'est d'en parler. Et c'est que comment arriver justement à changer, comme disait Diego, est-ce qu'on change vraiment les mentalités? Alors ça. Mais comment arriver justement à intégrer le plus possible cette nouvelle situation devant laquelle nous sommes tous confrontés? En fait, c'est dans ce sens-là que je posais mes questions, en me disant, moi, en tant que femme, dans ma vie tous les jours, comment agir, comment réagir? Parce que je crois que Martine Beauvais parlait avant de peur. Je crois que on a beau se dire, oui, mais on peut prendre des précautions, et si ça, la peur reste. Donc, je me demande comment trouver un moyen pour de mieux en mieux arriver à intégrer ce phénomène dans notre vie de tous les jours. Alors que ce soit au niveau de la prévention et que ce soit aussi par rapport aux personnes qui sont directement confrontées.
Oui, moi là j'avais envie de dire quelque chose parce que on a l'air de parler très très dramatiquement du sida. En plus à la radio, le sida... pour moi, c'est un système infaillible pour développer l'audience. Donc, il faut faire très, très attention. On peut donner des chiffres. Il y a un certain nombre de personnes touchées. Il y a un certain nombre de personnes qui seront touchées. Mais tant qu'on ne dira pas que le sida, ça nous concerne tous, parce que d'ici 1, 2, 3 ans, on aura des proches, des amis qui auront cette maladie et qu'on s'engagera pas pour changer les mentalités, c'est pas seulement les autres, mais c'est moi, c'est vous. Donc c'est important d'être partie prenante. Faut pas attendre sur les autres pour changer de mentalité. Il faut s'engager, nous. Alors c'est une réflexion, c'est peut-être un des côtés positifs du sida, c'est de réfléchir à moi, ce que j'appelle la convivialité, de savoir que moi je suis touchée non seulement dans mes relations sexuelles, il va falloir peut-être que je sois plus prudente, mais avec mes amis, dans le sens que on peut parler plus profondément et puis je vais peut-être devoir accompagner des gens qui vont mourir. Moi je me sens terriblement concernée. Et j'attends pas, je veux pas compter sur les autres pour changer les mentalités, je vais y aller, je vais foncer. Alors, quand Diego, tu posais ta question, c'est... Vous êtes les jeunes de demain, enfin vous êtes déjà pas mal les jeunes d'aujourd'hui, mais vous avez quelque chose, vous avez un grand rôle à jouer.
Oui, alors, si je comprends bien, ce qu'on a espéré, c'est que l'on puisse, nous, militer, en parler en toute liberté... et essayer de donner l'exemple, de donner l'exemple entre guillemets, mais de vivre avec au mieux. Et c'est de cette manière-là que à long terme, ça, on pourra peut-être vivre tous conjointement en cohabitation, etc.
Parce que vous parlez de convivialité, et je crois que déjà là, il y a un progrès qui s'est fait dans le sens moins altruiste que de s'occuper plus universellement des malades du sida. Il y a un retour au groupe et à la famille qui me semble très fort et important, que dans notre société basée sur l'individu, il y a une espèce de ras-le-bol qui est en train de se faire et qu'on a envie de retrouver un cocon qui soit familial ou pas. Et ça, à mon avis, c'est un progrès. Vous parlez d'aspect positif du sida, c'est ambigu de le dire comme ça, mais en même temps, ça peut en être un. Et là, il peut y avoir une dimension moins dramatique de cette maladie. Mais en même temps, quand moi, on me parle de malades qui sont atteints du sida et que c'est des personnes réelles, c'est non plus quelque chose d'abstrait, moi, ça me laisse un peu perplexe. Et c'est comme avec toutes les maladies incurables. Moi, je ne sais pas si je saurais dire ce qu'il faut, les mots qu'il faut, comment se mettre à la place de quelqu'un qui est malade, comment savoir si on lui fait plaisir en disant ça ou si on la heurte, comment savoir comment se comporter. Et peut-être que des fois, comment verser, surtout ne pas verser dans la pitié ou dans la compassion. Moi, je trouve que c'est extrêmement délicat et que c'est un effort énorme pour, en tout cas pour moi, parce que je sais pas ce que c'est et que vraiment, je ne sais pas si je serais capable, comme vous le faites, de partager ma vie avec des gens malades. C'est si horrible que ça puisse être, c'est un effort, c'est un sacrifice encore. Et ça, quand on parle de changer les mentalités, à mon avis, ça va être plus difficile que de mettre un préservatif.
Oui, moi, en fait, je suis quand même étonnée quand c'est une personne qu'on connaît, qu'on a connue déjà avant. C'est un peu différent que quand c'est le malade abstraitement. Et heureusement, enfin, moi je suis vraiment contente de voir que c'est pas les réactions des États-Unis ici complètement. Je veux dire, c'est pas vrai que tous les gens partent en courant. Il y a aussi des gens qui arrivent à dépasser la peur. C'est vrai qu'il y a une certaine peur. Et d'ailleurs, la plupart des personnes qui travaillent avec des personnes malades ont une petite anecdote la première fois où, tout en sachant que telle chose n'est pas dangereuse, eh ben, on a quand même peur. Je veux dire, il y a quelque chose comme ça. Mais ces peurs-là, ils sont dépassables. Et ils sont dépassés, ça se passe. Je veux dire, ça s'est passé autant à l'hôpital, parmi, je ne sais pas, les sages-femmes, les infirmières, maintenant les aides familiales, les infirmières à domicile, où la première réaction, c'est la crise un peu, et puis ensuite, en fait, bon, comment on va faire, je veux dire. Et je trouve qu'au niveau des amis aussi, il y a des réactions comme ça, pas dans toutes les situations, bien sûr, mais quand même souvent, et que c'est plus quelque chose de possible. Et que, pour moi, en tout cas, ça veut aussi dire un rappel comme ça, ouais, la mort, elle fait partie de la vie quelque part. Ça nous a bien arrangé, et moi aussi, je veux dire, je me mets là-dedans, de faire comme si elle ne devait pas exister. Et comment on gère ça? On est un peu mal à l'aise avec ça. Là, je suis d'accord avec toi. Mais en ça, c'est aussi une possibilité, quelque chose qui, de fait, n'allait pas, de le voir autrement.
Donc ce serait le temps qui changerait les choses, et pas tellement...
aussi des personnes qui s'engagent.
Et là, on est, et le cœur, ouais. Parce que là, on est... Oui, c'est ce qu'on disait, on est au début de quelque chose et ça va évoluer. Espérons dans un sens positif, une prise de conscience plus grande des gens.
En tous les cas, la fin de notre dossier arrive, le temps a passé. Nous, si nous avions envie de parler du sida, c'était pas pour augmenter notre pouvoir médiatique, que nous savons déjà très grand sur Radio Zone 93.8, mais c'était parce que Catherine et moi, et toutes les femmes de Honte Femme, c'est quelque chose qui nous préoccupe, puisque comme Barbara, comme Diego, comme vous tous, on s'y trouve confrontés. On avait envie d'en parler avec vous, parce qu'on a aussi nos peurs, on a aussi nos gênes par rapport à ça. Et c'est vrai que nous, nous en faisant ce dossier, j'espère que ça a été aussi un peu le cas pour vous, ça nous a un peu obligés à nous poser certaines questions et puis à se rendre compte aussi que la réalité n'était peut-être pas si dramatique aussi qu'on le pensait. Parce que d'en parler, de lire des brochures, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont disponibles. C'est aussi un moyen d'être mieux et plus consciente d'un problème et puis d'arriver à mieux en discuter, peut-être de mieux l'intégrer. En tous les cas, c'était le but de notre dossier. Je remercie beaucoup Barbara, Diego, Brigitte Studer ainsi que Martine Beauvais d'être venues avec nous ce soir pour en parler.
C'était Diane Dufresne, il s'aime dans des conditions effectivement problématique, comme nous venons un petit peu d'en discuter, mais pas forcément dramatique. On se remet encore une petite chanson, Marianne.
Oui, oui, volontiers.
Alors, on change de style totalement, puisqu'on passe aux goulus.
Oh,
tu connais les goulus?
Oui, oui. Alors, les goulus, je les connais bien, de très près. Du reste, je vais bientôt faire un dossier sur les goulus.
Menteuse. Menteuse, je suis sûre que tu ne sais pas que c'est Cathy qui chante, que c'est Frédéric qui a la guitare, que c'est Sylvie qui est au sax, Chris à la guitare et Cathy Tam Tam à la batterie.
Non, en fait, je ne savais pas.
Et elle dit que ce n'est pas si grave.
Alors ça, j'aimerais bien savoir.
Embarcadère la nuit, bruissant de mille adieux, des digues silencieuses qui guettent les lumières, loin, si loin dans le noir. Ô bien-aimé, quels yeux tes yeux, tous ces mystères dans tes yeux. Tous ces navires, tous ces voiliers, tous ces naufrages dans tes yeux. Ô ma bien-aimée, aux yeux païens, un jour, si Dieu voulait, un jour, dans tes yeux, je verrai de la poésie. Le regard implorant. Oh, ma tes yeux. Oh, minha amada, que olhos os teus são cais noturnos cheios de adeus, são docas mansas trilhando luzes que brilham longe, longe nos bereus. Oh, minha amada, que olhos os teus, quanto mistério nos olhos teus, quantos saveiros, quantos navios, quantos naufrágios nos olhos teus. Oh, minha amada, de olhos ateus, quem dera um dia quisesse Deus, eu visse um dia o olhar mendigo da poesia nos olhos teus.
Tous ces mystères dans tes yeux, tous ces navires, tous ces voiliers, tous ces naufrages dans tes yeux. Oh bien-aimé, quels yeux, tes yeux.
C'était Jeanne Moreau et Maria Bethania qui tous les deux parlaient des yeux de la personne bien-aimée sur des paroles de Vinicius de Moraes, un poète brésilien.
Et ben moi, j'ai rien à dire.
Monsieur Marianne, je t'avais demandé d'annoncer Vanda Jackson, histoire qu'on se réveille encore un petit coup.
Ah non, mais je regardais tes yeux magnifiques.
C'est quoi ces histoires? Tout ça parce que la technique marche pas et qu'elle s'arrache les oreilles. Je vous envoie à Vanda Jackson dans un rock voilà. Qui tâche.
Well, it's Saturday night and I just got paid. Fool about my money, don't try to save. My heart say go, go, have a time. Cause it's Saturday night, baby, I'm feeling fine. I'm gonna rock it up, woo, gonna rip it up, gonna shake it up, gonna ball it up. We're gonna rock it up and the ball's in. My heart say go, go, have a time. Cause it's Saturday night, baby, I'm feeling fine.
Et voilà, c'est la fin de Remue Ménage sur Radio Zone 93.8. Et juste avant de laisser la place à nos grandes copines des informels de Radio Pleine Lune, on va parler un peu de la semaine prochaine. Alors Catherine, là je crois qu'il est question de cinéma.
Oui, j'ai rencontré il y a 15 jours Véronique James, qui est script dans le monde du cinéma et de la télévision, mais surtout celui du cinéma, et qui nous parlera de son travail de script.
Et puis sinon, en deuxième partie, alors là, nous, Catherine et moi, nous allons sortir vendredi comme deux grandes, nous allons au concert. Nous ne vous disons pas qui nous allons écouter, car c'est un secret, nous y allons incognito, et à la fin du concert, nous allons réaliser un de ces interviews géniales. Génial, comme nous avons l'habitude de le faire. Alors tout ça, c'est pour mercredi prochain dans Remue Ménage sur Onde Femme 93.8.
Et nous vous rappelons que si vous avez l'intention d'aider Radiozone à avoir une technique efficace, soutenez Radiozone en achetant une carte d'auditeur ou d'auditrice au prix de
25 francs suisses
ou 100 francs français.
Et c'est tellement facile, un numéro de téléphone, le 023 50 40 51 41, il suffit de laisser votre nom et votre adresse. Et nous, nous vous serons très très reconnaissantes.
Et si vous voulez nous entendre demain à 11h en rediffusion. Et place à encore quelques bons rocks de Wanda Jackson.
We ain't faking, whole lot of shaking going on. Yeah, come on over baby, we got chicken in the bun. We ain't faking, there's a whole lot of shaking going on.
Shake, shake.
I say shake, baby, shake. I say shake, baby, shake. Shake it, baby, shake. Shake, baby, shake. We ain't faking, there's a whole lot of shaking going on. Let's go one time now. Come on over, baby, there's a whole lot of shaking going on. Get real low now.